Merci beaucoup d'avoir choisi l'Alpha 10 13 sur Radio Alpha. Je suis maintenant en compagnie de Louis Rigaud. Bonjour.
Bonjour.
Louis Rigaud, c'est un nom qu'on ne présente plus. Et pourtant, on a toujours plaisir à le faire. Musicien, guitariste, chanteur, auteur, génie comique, réalisateur, scénariste. À n'avoir jamais réussi à trouver votre métier, vous en avez fait plusieurs.
J'ai jamais trouvé ma voix.
Vous avez côtoyé les grands, comme vous. Antoine, Pierre Desproges, Coluche, Claude Villers. Vous avez fait le Charlot pendant quelques années et vous avez pas mal remercié votre patron. Vous avez fait pleurer de rire Jean-Marie Le Pen et toute la France avec la cultissime Journée d'un fasciste au tribunal des flagrants délires sur France Inter. Merci beaucoup, Louis Rigaud, d'avoir accepté mon invitation.
Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
Alors, commençons peut-être par parler d'un lieu qui a compté et qui compte pour vous, un lieu qui est fondamental, qui vous a décidé à devenir artiste, c'est le Café de la Gare à Paris, un café théâtre, je le rappelle, créé à l'initiative de Romain Bouteille. Qu'est-ce que vous devez au Café de la Gare, Louis Rigaud? Ça a été comme une épiphanie pour vous.
Oui, je leur dois la découverte d'une voie qui était possible, celle du théâtre, en fait, parce que à ce moment-là, je faisais partie des Charlots et je n'avais pas grand-chose à faire, puisque l'essentiel de la chose était Gérard Rinaldi, qui était un très bon chanteur. Il chantait et nous, les autres, les quatre couillons, on faisait semblant de danser à côté de lui et ça n'avançait pas pour moi. Et donc, voilà, le Café de la Gare, d'un seul coup, je voyais des acteurs comme Coluche, Patrick Devers, Guy B, Romain Bouteille, et Romain Bouteille, quel acteur. La liberté, du ton, de leur sketch, de ce qu'ils faisaient, voilà, c'était un événement pour moi. Et pas que pour moi, ça a été un événement pour beaucoup de monde. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Enfin, ça a contribué à ma décision de me séparer des Charlots.
Des Charlots. Et alors, Romain Bouteille, le cofondateur du Café de la Gare, disait que ces pièces sont, je le cite, des plaidoyers pour l'anarchie. Son idée, c'était pas de chef, pas d'hierarchie. Ça vous plaît, ça aussi?
Ah oui, ça me plaît beaucoup. Je crois que je suis pas anarchiste pratiquant, mais je suis anarchiste croyant, quand même.
Et cette tentative d'autogestion qui était le Café de la Gare en 70 s'inscrivait en fait tout naturellement dans son époque, puisque les années 70, c'est la lutte du Larzac, c'est le début du mouvement autogestionnaire chez Lippe, c'est l'époque des procès contre des antimilitaristes de mouvements trotskistes. Il y avait un certain contexte et le Café de la Gare, il s'inscrivait là-dedans.
Bah c'est-à-dire qu'ils avaient une liberté de ton qui était totale et puis ça ne ressemblait pas à ce qui se passait ni dans le théâtre privé, alors n'en parlons pas, le théâtre privé c'est à 95% du boulevard, quoi. Et le théâtre public, bon là il y a des auteurs et des gens très sérieux, très bien, mais bon, Romain, il avait un style particulier, un ton particulier, quoi. Voilà, c'est ça qui était bon, quoi.
Vous diriez que Louis Rigaud, le Louis Rigaud qu'on connaît et dont on entend maintenant le téléphone sonner, c'est
pas très grave,
vous pouvez l'éteindre.
C'est ça la modernité.
Ouais. Ah bah oui, c'est ça, on est interrompu par les téléphones qui est dans votre sac, exactement.
Écoutez, ça apporte un petit peu de vie à notre...
Bah c'est ça, sinon on allait un peu s'emmerder, quoi.
Comme là, les gens ne nous voient pas.
Et oui, c'est le principe de la radio, il n'y a que les voix.
Bah non, parce que maintenant toutes les émissions de radio sont filmées.
C'est vrai, pas ici.
Et on peut les voir dans le net, maintenant. Attendez que je...
Allez-y, on va couper le téléphone.
Que je prenne mon fusil et que j'arrête ça. Attendez, comment on coupe?
Eh ben, on est bon. Et alors, dans les années 70, Louis Rigaud, il y a aussi 1974. Et donc, à Lisbonne, la révolution des œillets, la révolution qui a mis fin à la plus longue dictature d'Europe, mais aussi aux guerres coloniales en Afrique. Vous êtes arrivé, Louis Rigaud, en France à l'âge de 18 ans pour fuir le service militaire en Angola. Mm-hmm. Vous avez eu, si je ne m'abuse, un sursis militaire. Vous n'êtes pas venu assault, ou comme on dit en portugais, vous n'êtes pas venu clandestinement en France. Vous êtes arrivé en 62, et alors, pourquoi avoir choisi la France? Au départ, vous deviez partir pour la Suède, c'est vrai?
Je ne sais pas, parce que je n'étais pas vraiment fixé au moment où je suis parti. J'avais une correspondante, à l'époque c'était très à la mode d'avoir des correspondantes quand on avait 16 ans, 17 ans, par là. Mais c'était courant pour les lycéens d'avoir des correspondantes étrangères. Et moi, j'avais une Suédoise. Voilà. Et je m'étais mis en tête que, avant d'aller faire un petit tour à Paris, j'irais à Stockholm pour la voir. Et ben, mais mon budget, il a été vite mangé dans les transports, parce que j'avais pas grand chose sur moi, et je me suis retrouvé vraiment à sec du côté de Belfort en Alsace. J'avais plus d'argent, je suis tombé malade, c'était compliqué. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais aller à Paris, on va laisser tomber cette histoire de Stockholm.
Donc c'est purement des raisons financières qui vous ont fait rester en France?
Non, pas vraiment. C'était quand même le seul endroit où je connaissais quelqu'un. À Paris, je connaissais une personne, je crois.
Et justement, comment se passent vos premiers instants en France? Qui ont été vos premiers contacts? Où est-ce que vous avez logé? En fait, c'est quoi la vie d'un Portugais dans les années 60 à Paris, ayant fui la dictature?
Je sais pas si tout le monde a connu les mêmes difficultés. Que moi, je pense que oui, beaucoup de monde a connu des difficultés différentes sans doute. Mais moi, le premier soir où je suis arrivé à Paris, la personne que je comptais voir pour m'héberger n'était pas là. Alors, j'ai déambulé boulevard Sébastopol et j'entends parler portugais, deux personnes, deux hommes qui. Hein, et je me suis adressé à eux. Et je les ai interpellés pour leur demander s'ils connaissaient pas une petite pension pas chère, parce que je me disais comment je vais faire cette nuit. Et ils m'ont dit, si vous avez pas d'argent, viens avec nous à Champigny. À Champigny, il y avait une grande communauté portugaise, une barlata.
Oui, un bidonville en fait.
Un bidonville, pardon. Et donc, voilà, j'ai commencé Paris comme ça. Accouché dans un bidonville le premier soir. Donc l'image d'Épinal que j'avais Paris, la Tour Eiffel et tout ça, je me suis dit, ah, c'est pas tout à fait comme ça.
Et vous avez vécu longtemps dans le bidonville de Champigny-sur-Marne?
Oh non, pas du tout. Là, j'en fais des tonnes. Mais le lendemain, ils étaient vraiment gentils de m'avoir hébergé. Et le lendemain, je suis parti et j'ai retrouvé mon copain qui habitait boulevard Sébastopol, en face de la tour Saint-Jacques. Il habitait dans une piole où je dormais par terre. Pour qu'il puisse se lever pour aller aux toilettes, il fallait que je me lève aussi.
Il fallait vous réveiller, quoi.
J'étais par terre, vous voyez, pour vous donner à peu près la taille de sa chambre. Bon, voilà. Les premiers jours ont été comme ça, mais après ça s'est arrangé, j'ai trouvé du boulot, etc.
Et alors j'imagine justement que vous avez multiplié les petits boulots.
Oui, dans les premières années, oui, bien sûr, j'ai multiplié des petits boulots. J'ai été coupeur de bâches, j'ai été à l'usine, fabriquer des trous dans des vis. Le boulot que j'ai gardé le plus longtemps, ça a été plongeur. Dans un resto U. Moi, je crois que celui-là, je l'ai gardé plus longtemps pour une simple raison, c'est que mes patrons me traitaient bien. Et c'est pour ça que je suis resté, je crois, 9 mois là-dedans. J'ai travaillé 9 mois là-dedans. C'est vrai.
Ah, bah, merci patron, alors.
Merci patron. Oui, ils étaient sympas, les deux cuistots, les chefs cuistots. Parce qu'il y a eu des boulots où je suis parti parce que je supportais pas le traitement des chefs, quoi. J'avais fait des gâteaux secs aussi dans une entreprise où le chef d'atelier était assez désagréable. Parce qu'il fallait s'entraîner quand même, vous savez, fallait prendre des grands morceaux de pâte. Chaque ouvrier avait sa table et sa grosse boule de pâte. On l'étalait sur la table et après avec un moule, on tapait dessus pour faire les biscuits, quoi, les gâteaux secs. Mais fallait quand même avoir la main, il fallait un temps pour apprendre à aller vite. Et puis il me dit, au troisième, quatrième jour, il vient me voir, il me dit, ça va pas aller si tu continues comme ça. Devant lui, je dis, ça va pas du tout même aller, je crois même. J'ai enlevé mon tablier, je suis parti chercher mon salaire à la caisse, vous voyez. Voilà, je pouvais quand même... À l'époque, on trouvait du travail assez facilement.
Vous n'aimiez pas l'autorité?
C'est pas de l'autorité. Les chefs sont insupportables quand ils savent pas... Quand ils respectent pas les droits des autres, quoi. J'aime pas les chefs en général, non.
Votre situation a été celle d'autres Portugais célèbres. Il y en a eu pas mal, des Portugais exilés, résistants en région parisienne. Je pense à Zac Afonso, José Mário Branco, Francisco Fagnais, Lucília, Serge Godinho. Et j'évoque même pas les hommes politiques. Mario Soares, Alvaro Cunhal. Vous avez côtoyé tous ces gens?
Pas tous, non. J'ai croisé Serge Godinho, je crois, et Lucília peut-être aussi. Oui, j'ai dû les croiser, mais je fréquentais pas parce qu'à l'époque où ils sont là, je suis déjà, je travaille déjà avec mon groupe de rock, vous voyez.
Non,
je suis pas connu encore. Et c'est pas en 69 que Zac Afonso a enregistré, parce que Les Charlots, c'est une affaire de 67.
Oui.
1967, c'est 68 même, je dirais. Je pense que Zac Afonso a enregistré à Paris le Grândola Vila Morena avant.
Oui, en fait, les Français vous connaissent notamment grâce au groupe de musique Les Charlots, et vous avez quitté le groupe en 71, l'année même où Zac Afonso enregistre au château d'Hérouville dans le Vexin, ce qui deviendra l'hymne de la Révolution d'avril, Grândola Vila Morena.
Ah voilà, vous voyez, non, donc je ne l'ai pas croisé. Malheureusement, je ne l'ai pas croisé.
Mais quel rapport avez-vous avec la politique? Parce que finalement, vous partagiez les mêmes idéaux, et eux étaient très politisés, vous l'étiez moins?
Bah, c'est-à-dire que moi, j'étais un ignare du point de vue politique. Moi, je fréquentais la petite bourgeoisie, bien que je sois pas d'origine bourgeoise, mais la petite bourgeoisie, on était tous anti-salazaristes. Mais quand même, et c'est ça le fascisme, quand même, c'est un truc un peu très, très compliqué. Il y a rien de plus difficile que de parler du fascisme, hein, parce que c'est une affaire très compliquée. Parmi mes copains de lycée, il y avait un qui était très riche, dont le père était propriétaire foncier en Alentejo, où il avait des propriétés immenses. Bon, c'était le riche de la bande. Il était salazariste, lui. Ben, nous, on était les autres quatre, on va dire, desquels je faisais partie. Nous étions anti-salazaristes. Mais on pouvait jouer ensemble et on pouvait s'amuser ensemble. Vous voyez, c'était ça la situation. Dans le pays, il y avait toujours quelqu'un qui était salazariste quelque part.
Oui, parce que vous êtes né dans les années 40 au Portugal. Ça ressemble à quoi une enfance dans les 40, années 40-50 40, au Portugal?
44. Oh, 44, là, je ne saurais pas vous dire. Je ne peux vous parler que de ma famille, de mon point de vue. De mon point de vue, moi, j'ai pas eu de copains avant le lycée. Hein. Il a fallu que j'aille au lycée. Mes premiers copains, c'est le lycée, c'est même pas l'école primaire. Vous voyez? C'est aujourd'hui quand j'ai commencé à essayer de me rappeler de ce que ça a été mon enfance, j'ai découvert des tas de choses bizarres.
C'est-à-dire?
J'avais jamais fait les comptes, mais je n'avais pas de copains avant l'âge de peut-être 12 ans ou quelque chose comme ça.
Et comment vous l'expliquez ça?
Mon milieu était comme ça, voilà. Mes parents étaient des immigrés de Trás-os-Montes, et voilà, j'étais à la maison, je ne sais pas pourquoi, c'était pas moi qui voulais pas, mais c'était les conditions familiales qui faisaient que c'était comme ça. Et à partir du lycée, c'est là que j'ai commencé à avoir des copains, vous voyez. Avec ma bande, c'est pour nous rattacher à ce que je disais tout à l'heure, ma connaissance de la politique, elle était nulle. J'étais anti-salazariste par instinct, presque. Mon père l'était aussi, très fort. Ma mère n'avait pas d'opinion, était très très religieuse. Donc je n'avais jamais lu Marx. Alors quand j'arrive à Paris, que je vais dans les cafés avec déjà des militants, des trotskistes,
des maoïstes,
des stalinistes et ainsi de suite, ils commencent à me parler de Marx. C'est qui Marx? Je connais pas. Où est-ce qu'il habite? Donc mais t'as qu'à lire, voilà, le manifeste du communisme. Ah bon, ok, je vais lire ça et puis on verra bien.
Et alors, qu'est-ce que vous en avez tiré de ces lectures de Marx?
Oh, j'ai lu un peu, oui. Mais j'étais d'accord avec tout ce que je lisais. Je n'avais pas la possibilité de pas être d'accord déjà. Mais il y avait quelque chose dans le militantisme qui n'était pas ma tasse de thé, c'est qu'ils détestaient le rock. Et ça, c'était grave pour eux.
Ah, et le rock passait avant la politique pour vous?
Oui. Ah oui, la musique, ça passait avant tout, quoi. et je les trouvais assez arriérés, quoi, dans leur goût. L'idée qu'ils se faisaient de la chose. Alors, ça a créé pour moi une distance.
Oui, un écart.
Un écart, tout de suite. Culturellement, je n'étais pas très, très fan de ce qu'ils disaient. Je n'étais pas du tout d'accord avec le discours des yéyés. On était des yéyés, voilà. Bon, et d'ailleurs, dans la communauté portugaise, il y en avait qui m'avaient collé le surnom des yéyés. Voilà, bon, enfin.
Et ça vous plaisait, ça ?
Non, pas du tout. J'étais tout à fait solidaire avec eux de l'idée antifasciste, absolument. Ça, c'était pas pour moi discutable. Mais culturellement, je n'avais pas de point commun avec la plupart des militants, quoi.
Et alors, j'imagine que vous vous souvenez très bien de votre 25 avril 1974. Quel souvenir avez-vous de la révolution des œillets ? Parce que vous étiez ici, vous étiez en France.
Bah, j'étais à la maison, j'ai reçu un coup de fil pour me dire ce qui se passe, voilà. Et j'étais bouleversé, quoi. Ah oui, j'étais, les bras m'en tombaient. Il y a des expressions en portugais qui sont plus belles que les bras m'en tombent, mais enfin, je vais pas les dire à cette heure-ci. Oh, ça a été un choc terrible. C'était inimaginable pour moi. C'était inimaginable. Il y a pas d'autre mot. Et donc, mais j'ai couru à Lisbonne 2 mois plus tard parce que.
Oui, vous êtes allé très vite au Portugal.
Oui, voilà, parce que j'avais du travail et j'étais payé. Et on peut pas. Bon, j'avais quelques difficultés à l'époque. J'avais quitté les. Bon, le groupe des Charlots, déjà.
En 71, donc.
Et donc, il fallait trouver du boulot, hein. C'était pas facile. Et donc, j'ai pas pu y aller tout de suite. Mais donc, quand j'ai été au mois de, entre mai et juin, j'ai été, je ne croyais pas ce que je voyais. Des affiches du Parti communiste dans les rues, ça me paraissait un truc incroyable. Jamais imaginé une telle chose. Voilà, ça a été une grande joie, un grand moment. 68 aussi, ça a été un grand moment.
Mm-hmm. Oui, parlez-nous de 68, parce qu'effectivement, vous avez connu 74, mais aussi 68 ici 68. À Paris.
Je crois qu'il y a eu deux dates dans ma vie où la société, l'extérieur, avait changé du jour au lendemain. Ça c'est pas facile à expliquer, que le changement social. C'est une chose qui est très visible dans les rapports entre les gens. Mmh. Par exemple, aujourd'hui, on dit qu'il y a, ce qui est vrai, qu'il y a une ambiance de merde en France. Eh ben, quand les choses changent pour une autre ambiance, qui ne soit pas celle qu'on connaît, eh ben, ça se sent dans la vie quotidienne. Vous le sentez dans la vie quotidienne. C'est une chose qui vous atteint. Voilà. Et je suis pas prêt d'oublier la différence. Ben, la différence, elle est partout. Par exemple, on allumait au Portugal, on allumait la télé et d'un seul coup, c'était pas con. Comment expliquer ça autrement ? D'un seul coup, tous les propagandistes qui avaient la main sur l'affaire étaient disparus. Tu te dis, mais c'est pas vrai ça. La manière de parler, on parle ouvertement. Ouais, ça change tout. Ça n'a pas duré longtemps, bien entendu. Comment est-ce possible ? C'est comme si aujourd'hui... Ben, écoutez...
Allez-y, dites-le, oui, on vous écoute.
Que tous les animateurs de la télévision disparaissent, quoi, d'un seul coup, vous voyez ? Je ne vais pas citer de nom, ce n'est pas la peine. Et que tous les propagandistes, tous les gens qui font de la politique, enfin, qui se prennent pour des journalistes, mais qu'en fait ne sont que des propagandistes de la politique. Et bah, du jour au lendemain, il y a des débats, il y a des gens qui peuvent dire tout et son contraire. C'était extraordinaire. On restait devant le poste, quoi. On regardait.
Et
on
donc écoutait. À vous écouter, on a l'impression que c'est plus le cas aujourd'hui, alors.
Ah non. Rien à voir.
Et alors, j'ai appris que vous aviez été arrêté par la PIDE. Pour rappel, on parle ici de la police politique du régime dictatorial de Salazar. Vous avez été arrêté et vous avez fait de la prison presque 2 mois. Racontez-nous ça.
Oui, voilà. Alors, le premier groupe de musique dont j'ai fait partie.
Mmh. Avant les Charlots.
Avant les Charlots, ça s'appelait Les Problèmes. Mmh. C'est avec ce groupe-là que nous avons accompagné Antoine. Donc, avec ce groupe, on est parti en 1965, jouer dans une boîte de nuit en Normandie, pour nous connaître, pour apprendre, pour faire un répertoire. Et quand on est revenu à Paris, j'avais fait une demande au théâtre monumental à Lisbonne.
À Lisbonne, oui.
Parce que je connaissais quelqu'un qui connaissait le patron, pour lui proposer le groupe pour le carnaval de 1965, au mois de février. Et il nous avait fait un contrat de trois prestations. Et nous sommes partis. À l'époque, c'était pas le même genre de voyage qu'aujourd'hui. Hein. C'était assez long, hein, quand même. Il n'y avait pas autant d'autoroutes. On est partis en estafette, qui a été prêtée par le père de Gérard Rinaldi, le chanteur du groupe Les Charlots, plus tard, qui était maçon, et nous avait prêté son estafette. On avait acheté des costumes, et on a mis nos amplis et la batterie dans le camion, dans la fourgonnette, dans l'estafette, et nous voilà partis sur la route. On a fait une escale à je sais plus dans quelle ville espagnole, et le lendemain, dans l'après-midi, on était à la frontière du Portugal du Nord, j'oublie le nom du bled, là. Et à la frontière, on a montré tous nos papiers, moi aussi, l'inspecteur, je sais pas quoi, il m'a dit, monsieur, venez avec moi ici dans le bureau, s'il vous plaît. Il y a un autre gars qui est arrivé avec lui, ils m'ont conduit dans un bureau, et là, ils ont fermé la porte derrière, et puis on a fait un couloir, et puis ils m'ont mis dans une cellule, sans me demander ni comment, ni pourquoi. Ils m'ont fermé à la frontière. Voilà comment j'ai été arrêté. Écoute, après le lendemain, ils m'ont transporté à Lisbonne. On a pris le train comme tout le monde. J'étais entouré par deux agents de la pile, donc deux inspecteurs. Et j'ai été rue Antonio Maria Cardoso, c'était le siège de la PIDE. Mmh. Je suis arrivé à 11h du soir, quelque chose comme ça. Mais quand j'ai demandé, mais pourquoi vous me faites ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et ils m'ont répondu, c'est vous qui le savez. D'accord, bon, très bien. C'est comme ça que ça a commencé. Mais alors, la raison que j'ai découvert beaucoup plus tard, parce que toute ma vie, j'ai cru que c'était mes fréquentations à Paris qui m'avaient valu ce désagrément. Mm-hmm. Ce gros désagrément. Attention, c'est pas facile, hein. Parce que quand il n'y a pas de raison d'être là, il n'y a pas de raison de sortir non plus. C'est comme ça. Et donc j'ai découvert en récupérant mon dossier, parce que c'est possible pour tous les Portugais quand même.
Oui, oui, mais d'ailleurs vous avez récupéré, c'est ce que j'allais vous demander, votre dossier de prison dans le service d'administration qui s'en occupe à Lisbonne.
Oui, voilà. Ouais. C'est pas facile, mais enfin on peut y arriver.
D'accord.
Et donc j'ai découvert qu'il y avait un courrier du ministère de la police et du ministère de l'intérieur qui m'avait donné le passeport. Il y avait une demande disant pourquoi vous avez donné un passeport à lui, c'est tout ça. Et la réponse c'était parce qu'il veut faire des études à l'étranger. Et puis il y avait un autre courrier immédiat qui suivait en disant il y a un mandat d'arrêt. Ce monsieur, je sais pas, les raisons c'était déstabilisation de l'État. Déstabiliser de l'État, dis donc. C'est un peu fort.
Quelle importance d'un coup.
Quelle importance on me donnait à l'époque. J'ai découvert donc le mandat d'arrêt contre moi, il était de 1966, du mois de septembre, octobre, alors que j'étais parti de Lisbonne au mois de mai. Donc très vite, j'ai eu un mandat d'arrêt contre moi, alors que toute ma vie, j'ai pensé que c'était un PID à Paris qui m'avait dénoncé. Vous voyez, on peut se tromper facilement.
Et alors, pendant votre incarcération, vos camarades du groupe Les Problèmes écrivent une chanson, La Ballade à Louis Rego, prisonnier politique, une chanson qui figurera sur l'album Antoine rencontre les problèmes en mai 66. On va l'écouter.
Il nous faut partir sans t'avoir revu, sans avoir pu te dire ami, salut.
Balade à Louis Rego, prisonnier politique.
Ouais, bah, il chante bien, Rinaldi. Hein.
Comment vous l'avez vécu, cette chanson, quand vous avez appris que vos camarades du groupe Les Problèmes l'ont faite?
Bien sûr, j'étais ému. Voilà. J'étais ému. Surtout que je l'ai entendu pour la première fois le jour de mon retour de Lisbonne. Mm-hmm. Je la connaissais pas, la chanson. Alors ça fait bizarre, quand je suis revenu, les conditions du groupe avaient beaucoup changé en un mois, puisque ils étaient programmés à l'Olympia pour accompagner Antoine. Mmh. C'était un saut énorme. Et donc, quand je suis revenu de Lisbonne, j'ai été directement à l'Olympia. Oui, finissait. Ils étaient à 2 jours de la fin, mes copains, mes amis, de terminer l'engagement à l'Olympia. Et donc j'ai été directement avec ma valise à l'Olympia le soir. Et bon, ils m'ont même été me chercher en coulisses pour chanter un morceau de notre répertoire. Et donc, j'étais très ému de les entendre chanter cette chanson que je découvrais pour la première fois.
Alors, Louis Rego, comment se sent-on quand on est un Portugais en France? Mais en France depuis 62, hein, figure majeure de la scène artistique ici dans l'Hexagone. Comment on se définit? On est Portugais, on est Français, on est luso-français, on est franco-portugais, qu'est-ce qu'on est?
Oh là là, cette question, elle est très emmerdante. Mm-hmm. Parce que
je la pose.
Oui, mais enfin, on la connaît, elle est vieille, et on connaît. Vous vous sentez plus Portugais ou Français? Mm-hmm. Eh ben, quand on est vraiment bilingue, on se sent des deux cultures, parce que pourquoi je me sentirais plus portugais ou plus français, ça n'a pas de sens pour moi.
Et alors comment vous gérez cette double identité ?
Moi j'ai une double identité à laquelle je ne prête pas plus d'importance que ça, parce qu'après tout nous sommes tous des humains, hein, si on réfléchit deux secondes. Évidemment, je suis de culture portugaise et ensuite je suis de culture française. Parce que jusqu'à 18 ans, j'ai été à l'école, j'ai appris ma langue natale que j'adore, et ensuite j'ai appris une autre langue que j'adore aussi, qui est ma langue presque de toute ma vie, c'est le français. Alors je n'ai pas, je ne suis, c'est comme si on nous obligeait à dire tu préfères ton père ou ta mère. C'est vrai que. Oh, il y a une bonne raison pour ça, parce que souvent, on peut avoir un des deux avec lequel on s'entend pas, pas très bien, et on peut avoir une préférence, c'est sûr. Mais pour la culture d'un pays, pour une langue qu'on est, pour les langues qu'on... J'aime bien la définition de Pessoa, si vous voulez. Ma patrie, c'est ma langue, il dit ça quelque part. Je suis assez d'accord avec ça. Ce qui me permet l'accès à la culture et au savoir et à l'instruction, c'est la langue. Eh ben, j'ai les deux. Donc, ma patrie, c'est le Portugal et la France.
En mai 2016, dans une interview pour France Inter, vous avez dit ceci, je vous cite, « Je n'ai pas eu la naturalisation française à cause du tribunal des flagrants délires. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Ah, moi, je pense que c'est ça, la cause, oui. Mais je n'ai aucune preuve. Je dis ça tout simplement parce que tous les copains portugais à l'époque, de l'époque, qui ont fait la demande de naturalisation, ils l'ont eu. Et ils avaient de moins bonnes raisons que moi pour l'obtenir. En ce sens que je gagnais pas mal de fric, j'étais marié avec une Française. J'avais déjà des enfants, en 80, oui, quand j'ai fait cette demande, oui, je crois que j'avais déjà une fille, ma première fille. J'avais un domicile fixe, enfin, j'avais les conditions optimales pour avoir ma naturalisation, et voilà qu'ils me la refusent. Mais l'administration française ne refuse pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Elle ajourne, c'est ajourné. Ajourner, ça veut dire que il faudrait recommencer les démarches. Et les démarches, c'est des choses qui vous prennent des années à faire. Ok? Je me suis dit, ah, non, là, il y a un blème, là. on va laisser tomber ça. Et puis, voilà, j'ai laissé tomber, j'ai pas redemandé. Mais vous savez.
Oui.
Ça va rester entre nous.
Évidemment.
Parce que c'est Radio Alpha. Je suis en train d'essayer de renouveler ma carte de séjour, je vais pas vous raconter les difficultés que j'ai.
C'est pas vrai.
Bien sûr que oui.
Même quand on s'appelle Louis Rego.
Si vous n'êtes pas naturalisé, vous êtes, voilà, il y a des problèmes.
Et donc on évoquait le tribunal des flagrants délires il y a quelques instants, qui était une émission mythique de France Inter dans les années 80. Oui. Quel souvenir gardez-vous d'avoir fait le commis d'office, l'avocat le plus bas d'Inter?
Oh, je garde un très bon souvenir avec des proches. C'était un très bon moment. On s'amusait beaucoup parce que à chaque fois on essayait de se surprendre, de faire des surprises, quoi. je garde un très très bon souvenir. J'ai dit des conneries et les gens m'applaudissaient, donc c'est un bon souvenir.
Et alors souvent on revient sur votre journée d'un fasciste avec Jean-Marie Le Pen. Qu'est-ce que vous éprouviez ce jour-là, Jean-Marie Le Pen dans le dos à devoir faire rire la France?
Il y a eu des ressentis assez différents, parce que ce jour-là des proches n'étaient pas du tout contents, ils voulaient pas qu'ils viennent à l'émission. Moi j'avais pas d'opinion.
Malgré votre histoire.
Malgré mon histoire, non. Malgré mon histoire, j'avais pas d'opinion. Ils étaient pas forts. Et le parti, à ce moment-là, il faisait 5-4%, un truc comme ça, quoi. À l'époque, j'imaginais pas ce que c'est. Je pouvais pas imaginer aujourd'hui ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Vous voyez, c'est pas possible. C'est pas possible d'imaginer l'avenir. parce que le passé est extraordinairement comment dire imprévisible. Le passé est imprévisible. Donc moi je voyais pas la chose aussi dramatique que mon ami des proches. Mais bon, il fallait lui taper dessus. J'ai essayé de faire ça avec de l'humour, mais ça n'a pas été très bien perçu forcément. À l'époque, il y avait des gens qui ne trouvaient pas ça très drôle. Voilà. Mais bon, c'est sûr que quand on essaie de prendre les choses un peu à la légère, il y a toujours... On ne plaît pas à tout le monde, ça c'est sûr.
Et alors, quel regard portez-vous sur l'humour aujourd'hui? Comment vous les trouvez, nos humoristes, aujourd'hui?
Oh, c'est difficile de voir. Non, moi j'aime pas trop penser la généralité, parce que il y a une part des humoristes aujourd'hui, c'est un commerce. Tout le monde, toutes les émissions a son humoriste de service. Et après, quand... Le système est assez pervers, je dirais. En tout cas, par exemple, si on prend le cas de France Inter, parce que bon, les responsables des émissions, les patrons, ils aiment bien faire le buzz. Alors, d'un côté, si vous voulez, ils font un peu comme pour les chiens, ils excitent à mordre. Vas-y, vas-y, mord, mord, mord. Et puis, quand les gens mordent vraiment, bah, ils se font virer, quoi. Voilà.
Vous pensez à Guillaume Meurice, par exemple?
Oh, je vais pas citer de nom, mais bah, bien sûr, mais il est pas le premier. Il y en a eu d'autres avant, hein. Donc, c'est ça, le système, quoi. Donc.
Est-ce que vous trouvez que...
C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, cette histoire. Parce que j'ai pas envie de dire qu'ils sont tous nuls. Mais la plupart, c'est vrai, ils sont pas drôles, quoi. Ils sont pas drôles. Et ben, y en a qui ont des cartes. J'ai vu un jeune, l'autre fois, qui m'avait donné sa carte et avait écrit humoriste. Bon, ok.
Vous n'aimez pas ce mot humoriste?
Ah non. Non, non. Vous savez, moi je pense profondément qu'un véritable humoriste, il n'est pas fait pour durer. Il arrive, il va dire une chose qui va marquer, et il va se faire virer, quoi. Je crois que la vraie place d'un humoriste, c'est dans la rue. C'est pas dans le... J'y crois pas.
Vous ne croyez pas à l'humoriste médiatique? Dès lors qu'il est installé dans le système médiatique, voilà, c'est qu'il est complaisant d'une certaine façon.
Bien sûr, il peut pas avoir la liberté, quoi. Et la liberté, c'est ça qui fait l'humour aussi. Hein.
Mais d'une certaine façon, vous avez fait partie de ce système quand vous étiez sur France Inter avec le tribunal des flagrants délires.
Oui, mais j'ai tout fait pour me faire virer aussi.
D'accord.
Ah oui, mais j'ai des preuves. Hein. Ah oui, j'ai des preuves. J'ai des preuves. Vous imaginez... j'ai pas prévu le coup, mais... J'ai dit des choses qui n'étaient pas très très conformes quand même, très limites. Même moi, quand je réfléchis aujourd'hui à certaines choses que j'ai dites, je dis « Oh, je suis pas sûr que j'aurais envie de recommencer ça ».
À quoi vous pensez, par exemple ?
Ah ben, j'ai pensé à la violence de certains propos... que j'ai eu, quoi, par exemple, contre le féminisme radical.
Oui, il y a dit ça.
On est en direct et j'ai du mal à trouver le...
Et ce n'est pas grave, ça fait partie de l'exercice.
Oui.
Mais donc, disons qu'il y a certains sketchs que vous ne referiez plus aujourd'hui.
Ah non, non. Mais j'assume de les avoir faits, attention. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, je ne les ferai pas de la même manière. De toute façon, aujourd'hui, j'aurais plus envie de faire ça.
Pourquoi? Vous n'avez plus envie de faire rire les gens?
Oui et non.
Ça vous a toujours embêté, ça, qu'on vous colle l'étiquette d'humoriste, de comique et puis rien d'autre. Alors que, je le rappelle, en début d'entretien, vous avez plein de casquettes.
Oui, je n'ai pas la... C'est trop lié, ça me limite un peu trop, quoi, vous voyez. J'aime pas être limité par comme ça, par une appellation, c'est un humoriste ou je sais pas, ou c'est un journaliste, ou c'est ceci ou cela. Bon, journalisme, c'est différent, quoi, le journalisme. Donc, mais bon, comme les journalistes aujourd'hui ne font pas leur boulot, en général, je parle pas pour vous. Mais en général, ils font pas leur boulot. Ben c'est, ils travaillent pour des patrons, pour des 90%, tout le monde sait que, voilà, c'est comme ça, les médias sont tenus par des milliardaires, et les milliardaires n'aiment pas qu'on dise du mal d'eux, quoi.
Et alors cet esprit, par exemple, est-ce que vous décrivez, est-ce que vous pensez qu'il a corrompu d'une certaine façon aussi l'esprit Charlie? J'imagine que vous voyez une différence avec le Charlie Hebdo de l'époque et celui d'aujourd'hui.
Ah ben, il n'y a rien à voir. Rien à voir. Charlie de l'époque, Harakiri, on va dire. La naissance d'Harakiri, tout ça.
À les années 70, encore une fois.
70. Ah ouais, les années 70, c'est un moment exceptionnel. On était tellement loin de croire ce qui nous pendait au nez, plus tard. Donc, Cavana, Volinsky, Rezer, Delphine de Thon, les dessinateurs comme Willem, qui est un génie, GB, il y avait toute une équipe. Ah ben, je me souviens plus du nom d'un écolo qui travaillait pour le journal aussi. Enfin, bref, personne faisait de l'écolo à l'époque, encore. Écoutez, je pense que, en France, il y a deux périodes dans ma vie. La période où Charlie a existé et après. C'est pas la même chose. Au Portugal, malheureusement, il n'y a pas un équivalent de Charlie. Je ne sais pas s'il existe un équivalent en Angleterre. En Italie, je ne pense pas qu'il existe. En Espagne, c'est sûr, il n'existe pas. Voyez, je crois que Charlie est le marqueur de la liberté d'expression en France. Il est le marqueur. Il a été le marqueur. Il est disparu. Il faut chercher, alors, les nouvelles limites de la liberté d'expression dans ce pays.
Et alors, pour clôturer cet entretien, Louis Rego, j'ai envie de
déjà,
vous demander...
Mais j'ai l'impression que j'ai rien dit.
C'est passé vite.
Mais je suis bavard, oh là.
Que devient Louis Rego? À quoi ressemble votre vie aujourd'hui?
Eh ben, j'essaie d'écrire un peu. J'aurais tout fait, hein, mais l'écriture pour un livre n'est pas du tout la même que pour une pièce de théâtre ou pour les sketchs. C'est pas du tout la même chose. Donc, pour moi, c'est une nouvelle occupation, si vous voulez.
Vous écrivez?
J'écris. Ben, je vais essayer de faire un peu ma bio, mais ça fait déjà quelques années que je suis dessus. Sur la bio, j'écris sur ma bio et j'écris sur le 25 avril au Portugal. Voilà.
Et alors, dans votre bio, quel est votre passage préféré?
Oh, je l'ai pas fini encore. C'est quand je mettrai le mot fin. Quand j'apporterai ça à l'éditeur. Ça va être mon passage préféré.
Merci beaucoup, Louis Rego, pour ce moment privilégié.
C'est moi qui vous remercie.
Vous reviendrez?
Ah oui, je suis bavard aujourd'hui, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai l'impression que j'ai rien dit.
Grande abraço.
T'obrigado.